patriarca, 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 patrie, patriarca, patrie.
Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and hot.
Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon en féminin.
Dégenrer l'émission pour
déranger.
Une émission féministe
les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
J'ai 16 ans et ma sexualité devient une chatte pour leur bite. J'ai appris à nier mes désirs.
J'ai pensé longtemps que j'étais une pauvre fille.
Dressée à être un réceptacle, à se satisfaire d'avoir donné du plaisir à l'autre.
Pourvu qu'on ne nous laisse pas comme une vieille chaussette.
On m'a appris à avoir peur.
J'ai appris à nier mes désirs.
On m'a appris à avoir peur.
Non consentement.
La sexualité est pensée pour les hommes sans le consentement des femmes.
Devoir conjugal, viol conjugal.
Nous sommes du sexe de la peur. De l'humiliation.
J'hérite de générations de femmes violées.
C'est une histoire collective. Collective.
Ça.
Jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Le viol, c'est la guerre civile. L'organisation politique par laquelle un sexe se déclare à l'autre « Je prends tous les droits sur toi ». Je te force à te sentir inférieur, coupable et dégradé.
Le viol est une prise de pouvoir et un vol du choix.
Le viol n'est pas la satisfaction d'un besoin physique, le viol est culturel.
C'est pas une condition inéluctable des femmes, c'est une organisation sociale des choses.
Il n'y a vraiment que les psychopathes graves, violeurs en série qui découpent les chattes à coups de tessons de bouteille, ou pédophiles s'attaquant aux petites filles qu'on identifie en prison. Car les hommes condamnent le viol. Ce qu'ils pratiquent, c'est toujours autre chose.
Je suis furieuse contre une société qui m'a éduquée sans jamais m'apprendre à blesser un homme s'il m'écarte les cuisses de force. Alors que cette même société m'a inculqué l'idée que c'était un crime dont je ne devais jamais me remettre.
Le problème n'est pas juste le viol. Le problème est au-delà du viol. Le problème autorise le viol, le problème organise le viol. Le problème est patriarcal et sexiste.
Que crève le patriarcat, maintenant, tout de suite.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salut.
Alors vous êtes bien sur Radio Kaleidoscope 97 FM, donc avec une émission de dégenrés sur les liens qu'on pourrait faire entre nos luttes féministes et notre rapport à la justice. Alors l'idée pour nous ce soir, c'était un petit peu de développer comment dans une société patriarcale, du coup, où les femmes, en tout cas reconnues socialement comme telles, s'en prennent un peu plein la figure, vivent plein de violences, et comment on peut gérer ça derrière, quelles stratégies on peut mettre en place, et du coup, est-ce qu'on fait le choix, quand on vit ça, d'avoir recours à la justice ou pas, pour quelles raisons? C'est un peu sur ces questions qu'on va se pencher ce soir.
Et du coup, le petit medley musical que vous venez d'entendre, c'est les phrases, c'est des extraits de brochures ou d'émissions de radio qu'on trouvait parlantes. Et du coup, c'est un petit peu, ça illustre aussi un petit peu notre position sur le viol et le rôle qu'il a dans cette société. Que c'est pas juste des cas particuliers et des choses qui se passent entre deux personnes, mais que c'est quelque chose qui s'ancre dans des rapports structurels.
Et c'est un peu pareil hein, pour toutes les formes de violences genrées et sexistes, en fait. C'est qu'à un moment, des violences conjugales, ou même, on peut dire d'une manière générale, la majorité des violences qui ont lieu dans notre société, elles sont rattachées à un rapport de pouvoir et à un peu à la structure et aux oppressions qui existent dans notre société. Et c'est pour ça qu'à un moment, les violences genrées, d'une manière générale, on les rattache pas seulement à des rapports interindividuels, mais aussi à une analyse sociale, en fait. Et alors, l'autre postulat de départ de notre émission, c'est aussi qu'on est contre la justice, contre le système judiciaire, dans le sens où, pour nous, c'est un outil de l'État et de la société pour maintenir des pouvoirs en place. Et c'est une manière de punir les individus qui s'écartent d'un droit chemin et qui s'écartent des normes, en fait.
Oui, on dit comme ça, il y a des formules rapides qui disent que c'est une justice de classe. Et voilà, c'est un peu cette idée de que chaque personne reste dans sa classe sociale, alors aussi ou classe, par exemple, en tant que femme, dans sa classe initiale, quoi.
Et du coup, il y a ce truc du coup là qu'on part de ce postulat-là et d'un rapport hyper critique au système judiciaire. Et du coup, on s'est posé un peu la question entre du coup notre féminisme et notre rapport à la justice. Comment en fait concrètement dans notre quotidien et par rapport aux violences qu'on peut subir, qu'on a pu vivre, comment en fait on deal avec ça? Comment on deal avec avec ce rapport à la justice, à aller porter plainte, pourquoi, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, et qu'est-ce qu'on trouve aussi pourri là-dedans. Et du coup...
L'idée, c'est pas d'avoir un regard moral ou même dogmatique sur qu'est-ce qui serait bien de faire ou qu'est-ce qui est pas bien de faire dans ces cas-là. Nous, on a recueilli des témoignages et l'idée, c'est bien de montrer qu'il y a différentes stratégies face à ça et que déjà, socialement, il n'y a pas beaucoup de possibilités qui nous sont offertes. Du coup, là, les meufs qui sont interrogées et tout, elles parlent de... qu'est-ce qu'elles ont eu sous la main à un moment et comment elles ont pu se renforcer, tenter de se renforcer au maximum par rapport à ça, quoi.
Et ce, malgré le fait qu'elles aussi, elles soient critiques de l'institution judiciaire, en fait.
Et comment aussi on peut être hyper critique face à la notion de punition, que c'est une notion qui est hyper judéo-chrétienne et qui est un outil du pouvoir, en fait. C'est un rapport de pouvoir, en fait, des forts sur les faibles, en fait, pour faire un peu caricatural, de qui c'est qui a la puissance et qui c'est qui l'a subi. Et du coup, voilà, et comment aussi on peut aussi différencier ça, on le développera peut-être plus tard en la différence avec la vengeance, qu'on rapproche peut-être plus d'un rapport de force. Et du coup, voilà, pour les montages que vous allez entendre, du coup, il y a trois témoignages différents. Du coup, au début, on était parti plutôt d'un truc assez large de violences genrées. Et là, du coup, ce que vous allez entendre, c'est surtout des personnes qui ont subi des formes d'inceste ou en tout cas des violences intrafamiliales. Du coup, voilà, c'est un peu le hasard qui a voulu ça.
Et en même temps, on est consciente que c'est des enjeux très particuliers parce que ça n'a pas du tout le même sens de porter plainte contre un inconnu que porter plainte contre quelqu'un qu'on connaît et voire dont on est proche.
Voilà, mais quand même, on voulait rappeler que globalement, les agressions, elles sont en grande majorité vécues dans un cadre de proximité, en fait, qu'il soit au travail, dans le cadre familial ou quoi, et que le mythe de l'agresseur au coin de la rue ou quoi, en fait, c'est qu'une petite, ça représente qu'une toute petite partie des agressions.
Donc voilà, ben, on vous laisse écouter la première interview.
Au début, une histoire où mon père il a porté plainte contre ma mère pour diffamation. Et donc il y avait déjà une plainte en fait. Et ma mère, elle voulait porter plainte contre mon père. Et elle avait même décidé de le faire, quoi qu'on en dise, moi et ma sœur. Et moi j'ai décidé de porter plainte avec elle, ou en fait... C'est comme j'étais mineur, enfin je sais pas vraiment à quoi c'est dû, je me rappelle plus vraiment comment ça fonctionne, mais j'étais entendu plutôt comme témoin. En fait, j'étais pas vraiment... c'est un moment en gros comme si tu témoignes à l'État qu'il s'est passé un truc qui interdit, et en fait c'est l'État qui est agent de la plainte, enfin je sais pas comment dire ça en fait. Mais moi j'ai l'impression que j'ai décidé à l'époque de faire ça parce que dans toute cette situation un peu chaotique, c'était une des rares options d'action en fait, d'agir, d'intervenir quoi, enfin de faire quelque chose. Et je pense aussi parce que c'était sur le même plan, c'était une réponse à la plainte de mon père, que moi à l'époque ça m'avait fait un peu peur. Voilà, je savais pas du tout jusqu'où ça pouvait aller, ou je sais pas, je pensais aussi dans la représentation de que m'en a fait ma mère, enfin qui joue, et puis j'avais 12 ans en fait, à 12 ans ou 13 ans, je sais plus. Voilà, c'est un peu trop quoi. Dans cette histoire, disons, il y a un côté un peu compliqué pour moi à en parler comme. Juste, voilà, il y a eu une agression et puis une réponse à ça. C'est plutôt que depuis un petit moment que j'ai plus retravaillé pour moi un peu là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être beaucoup plus compliqué que ça, que je qualifierais pas, moi, d'abus sexuel, ce que j'ai vécu avec mon père, que c'était clairement je sais pas quoi, une transgression. En même temps, c'était... début des années 90, au milieu des années 90, et c'était vraiment pas du tout facile de se faire entendre sur ce sujet-là. Du coup, enfin, je pense en fait, ça fait une situation complexe, comme j'imagine en fait, je pense pas qu'il existe des situations qui sont pas complexes. De mon point de vue d'aujourd'hui, je me dis, moi je trouve hallucinant qu'il y avait personne autour qui à un moment... à penser, mais merde, ces deux filles-là, moi et ma sœur, elles sont super jeunes, là il se passe plein de trucs, pas cool, avec des tonnes d'enjeux, des adultes autour qui ont leurs propres enjeux là-dedans, plein de choses comme ça, et en fait, il y a personne qui a réellement essayé à savoir c'est de quoi qu'on avait besoin, nous. Moi, j'ai vu quelqu'un d'une psy d'une asso de protection des enfants, et c'était nul, elle était nulle, enfin je sais pas, mais aussi je suis pas sûr, c'est pas ça qu'il me fallait, enfin je sais pas, Moi, en fait, dans mon souvenir, il y a vachement quelque chose de... Je sais pas quoi penser. Et à un moment, je sais même plus quoi sentir. Parce qu'en fait, il y avait un truc hyper fort autour qui prenait en charge la définition de tout, quoi. De ce qui m'était arrivé, de ce que je devais sentir, de comment enfin, de ce qu'il fallait faire. Enfin, il y avait un peu tout ça. Et je pense que c'est à la fois un truc social, mais c'est aussi bien une manière comment fonctionne la justice, en fait. De créer, en fait, des définitions que tu peux pas t'approprier, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette souplesse, en fait, dedans. En fait, la plainte, c'est une audition là, chez la police. Enfin, ça, c'était la première audition, le premier entretien que j'ai eu là-dessus. Et puis, ensuite, mais longtemps après, hein, ça a duré un an au moins, je pense. J'avais un entretien avec un juge d'instruction qui était con, mais vraiment hyper con. Je sais pas, je dirais 50 ans, hyper convaincu de savoir comment fonctionne le monde et hyper complaisant comme ça. De quand même trouver pas hyper crédible en fait ce qu'on racontait ou à essayer en fait de tout le temps me poser des questions pour me coincer. Et ensuite, en fait, il n'y a jamais eu vraiment un procès, ça a traîné encore un moment et il y a eu une sorte d'arrangement. Et ça ne va pas aboutir c'est sûr que ça ne va pas aboutir à un truc énorme. Enfin, je veux dire qu'il n'y aurait pas, je pense que c'était assez sûr qu'il n'allait pas aller en prison, que probablement ça pouvait être un truc peut-être d'une amende ou un truc comme ça, mais que quand même, moi, ce truc dans la situation même, à un moment, c'était une manière d'intervenir en fait, de faire quelque chose là dans ce chaos et de prendre une décision en fait, même si bon après c'est relativement limité et c'est après sa part et j'avais plus tellement de pouvoir dessus et tout ça, mais n'empêche en fait à un moment décider de faire quelque chose là-dedans, c'était pas mal. Moi à des moments ça dépend vraiment des phases dans ma vie, mais c'était pas tout de suite, mais un peu plus tard ou quoi, j'ai eu des moments où je réfléchissais si je pouvais pas monter une sorte de commando qui allait lui péter la gueule ou faire un truc et d'aller en fait partout où il est et mettre des affiches en disant que c'était un connard et qu'il avait abusé de ses filles et tout. Mais même ça, je me rappelle même au moment où je pensais ces trucs-là, c'est aussi un truc d'impuissance en fait. C'est un truc, et pour moi quand même, il y a vachement... Enfin, mais ça, c'est mon expérience. Je pense qu'il y a d'autres histoires de violence ou je sais pas quoi, mais moi, il y a ce truc-là d'avoir été une gamine, en fait, et ce truc de comment à la fois, d'un coup, ça amène en fait, j'avais pas d'outils, en fait, pour faire face à ce genre de truc, pour, en fait, même juste à un moment... réfléchir ce que j'aurais eu besoin ou je sais pas quoi, je pense que j'étais juste j'avais pas les outils pour ça en fait. Maintenant en fait j'ai plus d'outils là-dedans, mais c'est pas fini, enfin je veux dire c'est un travail en cours. Et après j'ai l'impression maintenant par exemple la justice c'est plus du tout enfin j'envisage rien en fait de ce côté-là, je vois pas, je pense que c'est aussi dû au fait que ben je me suis construite une réflexion hyper critique sur la justice, quoi, en fait, j'ai pas... Enfin, et en dehors aussi de mon histoire personnelle, en fait, de qu'est-ce que c'est l'État, la justice, tout ça, et comme j'ai un regard super critique là-dessus, et même j'ai plutôt envie de trouver... de réfléchir le monde sans, en fait, un système à la con comme ça qui te... comment on dit... te dépossède de ce qui te passe et qui fait aussi qu'en fait après il y a des gens qui sont censés gérer les conflits, enfin je veux dire par exemple les flics qui sont, c'est eux qui ont le monopole d'intervenir dans certains conflits ou des trucs comme ça, sauf que je trouve que ça permet pas d'avoir de la prise en fait sur sa vie, sur ce qui se passe, sur les conflits, même si en fait à plein de moments je pense c'est compliqué et ça nous dépasse. Et même dans ma propre histoire, je vois pas forcément des trucs hyper clairs, ce qu'on aurait dû faire ou ce qui aurait été super ou je sais pas quoi, mais sauf que, enfin, je pense, j'arrive à imaginer des trucs vraiment plus intéressants que les flics et la justice, hein, ça c'est sûr. Ouais, après, je pense que c'est pas toujours si facile que ça de savoir c'est quoi ses propres besoins. Enfin, en tout cas, je trouve que il y a tellement un truc autour de, notamment, je sais pas, ce qu'on appelle les violences sexuelles ou je sais pas quoi, de que à la fois en fait il y a un truc de facilement pas du tout prendre en compte des trucs, en même temps il y a quelque chose où ça c'est quand même les pires violences qui soient. Il y a aussi
tu veux dire socialement c'est, oui. c'est analysé oui. comme tel.
Et aussi ce truc où par exemple du coup en fait si t'en souffres pas ça va pas, alors c'est soit que c'est pas crédible, soit en fait que toi, tu dois bien avoir une responsabilité là-dedans, ou je sais pas quoi. Boys are ready to go. Enfin, je trouve qu'il y a même un truc de comment, en fait, il faut que t'en souffres. Moi, j'ai l'impression, en fait, dans plein d'autres situations, souvent, il y a, en fait, une manière de réagir à ça qui est hyper soit les gens ils sont peut-être mal à l'aise ou je sais pas quoi, mais d'en faire soit un tabou, soit on n'en parle pas du tout, soit en fait être dans un truc vachement aussi de ah ouais mais peut-être en fait c'est hyper dur alors peut-être il faut pas trop en parler parce que enfin et j'ai l'impression que ça laisse pas de place pour plein d'autres manières peut-être de réagir à ça et qui sont pas juste un truc moi je pense pas que un viol forcément ça t'anéantit quoi, enfin ça peut le faire et c'est un truc, c'est pas la question en fait sur à quel point c'est grave un viol c'est super grave et toujours quoi, enfin c'est pas la question, mais en fait ça reste grave même si en fait la personne qui l'a subi ben est pas anéantie et puis je sais pas, trouve des stratégies à ça. Moi par exemple je trouve aussi une stratégie souvent qui quand même est vachement qui donne de la force, c'est la colère, et la colère ça peut du coup prendre plein de formes différentes mais qui sont dans un truc d'énergie en fait et pas du tout dans un truc de d'être un tas de merde là à qui on a pris toute dignité, ou je sais pas, un truc, une connerie comme ça. Il y a 2 ans, j'ai un événement dans ma famille aussi, a fait que, en fait, ça a fait remonter plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre du temps, de prendre un mois pour écrire, ou quelques semaines pour écrire, parce que en fait justement j'avais l'impression que ma version elle n'existait pas en fait, parce que j'étais pas dans une position où j'aurais pu la dire à ce moment-là, mais et c'est sûr maintenant c'est ma version depuis là où je suis aujourd'hui, hein. mais ça c'était un truc important et parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il existe plein de versions. Il y a la version de mon père, il y a la version de ma mère, il y a la version de la justice. Enfin, à ce moment-là, j'ai essayé de retrouver, j'aurais bien aimé retrouver, en fait, les comptes rendus, enfin, les procès-verbaux, en fait, de mes auditions. Mais, en fait, il faut aller sur place, et du coup, avec un avocat, du coup, en fait, c'est juste un truc un peu compliqué. Et peut-être je vais encore le faire, je sais pas. Mais après, moi, je trouve que c'est des histoires... Moi, là, j'ai 35 ans, ma sœur, elle a 37 ans. Et en fait, c'est vraiment en train de ressortir et de faire des grosses vagues pour chacune de nous, je crois, dans notre vie. Et je trouve ça hallucinant, en fait, ce truc de mais ça fait plus de 30 ans, certains trucs, en fait. Et franchement, moi, je crois, pour arriver à ce que... Enfin, déjà, que ces de comportements, ça n'existe pas, ça serait l'idéal, mais je crois pas trop dans des mondes idéaux comme ça. Mais par contre, pour faire, en fait... Moi, je crois vraiment que la violence, en fait, de ces choses-là, elle est aussi vachement dans la suite, en fait. Dans comment ton entourage il réagit, comment en fait t'es soutenu ou pas, comment... Moi, c'est un multiplicateur de violence, ce truc-là, là, je trouve. Enfin, et de, en tout cas, de comment en fait ça te pourrit la vie ou pas. Parce que, enfin, moi, j'y crois vraiment qu'on peut vivre des trucs très pourris et s'en sortir. Et pas parce que c'est pas grave, mais parce qu'en fait, notre vie, c'est aussi autre chose et qu'il n'y a pas une expérience ou quoi qui nous définit tout entière. C'est peut-être dans ce cadre-là aussi que parfois, une sorte de reconnaissance par la justice, ça, je pense qu'il y a des situations ou des personnes pour qui ça peut être un truc très important. Mais je pense que ça ne suffit jamais. Ça ne peut pas suffire pour... je sais pas comment dire. Pour te donner de la force là-dedans. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à imaginer ça. Qu'il faut autre chose.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Donc vous venez d'entendre un morceau de Tracy Chapman, une très belle chanson a cappella qui s'appelle Behind the Wall et qui parle de violence conjugale, et elle parle notamment du rôle de la police là-dedans et comment en fait c'est des affaires privées et qu'en fait ils veulent pas se mêler de ça, et du coup ça renvoie encore à ce truc que le personnel est politique.
Et du coup aussi en lien avec le montage qu'on a entendu juste avant, on entend pas mal dedans aussi des choses par rapport à la justice, de comment... Bon, déjà la justice c'est un peu les spécialistes de la gestion des violences, et on n'a pas trop le choix que de se tourner vers eux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres outils qui sont proposés, et que la manière de gérer c'est vraiment de classer les choses dans des petites cases, quoi. Et que en fonction de quel est le délit, il y aura une peine, tout ça. Et que au final, il y a plein de violences qui sont hors case en fait et qui sont pas reconnues par la justice. Et comme on voit, ne serait-ce que la notion de viol conjugal, ça fait pas très longtemps qu'elle est reconnue par la justice. Et je pense que elle est assez rarement jugée comme telle. Et du coup, voilà, ça mène aussi à toute cette notion qu'à un moment, Il y a tout ce truc où il faut prouver encore à la justice, en fait, que ça se passe pas, que si on subit une violence, on va chez les flics et on dit « bah voilà, il m'est arrivé ça », et puis qu'on dit « ouais, d'accord, il t'est arrivé ça, on va prendre soin de toi, on va mettre en place des choses qui vont te faire du bien, autant par rapport à la personne qui t'a agressé que par rapport à toi-même, etc. » Non, en fait, la première chose qui se passe, c'est qu'on te demande de justifier ce qui se passe et de le prouver, en fait, que si au final, t'as pas de preuves, ou si ça rentre pas dans les bonnes cases, et ben au final t'as pas de reconnaissance des violences que t'as subies. Mais à l'inverse, si jamais on reconnaît que t'as subi des violences, tu te retrouves dans la position de victime, qui est pas forcément chouette non plus.
Et oui, c'est un truc de où cette position de victime là, c'est un peu ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois éploré, anéanti, surtout après ce genre d'épisode, quoi. C'est un peu c'est un truc que t'es pas censé te remettre, en fait. Et du coup, si tu pleures pas assez, si au contraire t'es en colère et que t'as des envies de vengeance ou des trucs comme ça, et ben ça, c'est pas un truc qui est reconnu, en fait, en face. Et que ça joue vachement dans le fait qu'on te croit ou pas, et que c'est en fait la première étape dans la dénonciation d'une violence telle quelle, c'est d'être cru, en fait, quoi. Et ça, c'est un des enjeux principaux dans la décision d'aller porter plainte ou pas.
Oui, en fait, moi, ce que je vois aussi dans la position de victime, en plus d'être traumatisé, il y a un truc d'être passif. En fait, que le seul acte... La seule chose active qui est faite, qui doit être faite, en fait, c'est le fait d'aller voir la police et de porter plainte. Mais après, tout le reste, il y a une position de passivité, en fait, de juste répondre aux questions. Mais en tout cas, c'est pas possible d'agir, en fait, soi-même. Que les actes, ils doivent être faits par les autres. Et ça, c'est pas très powerful, quoi. Enfin, c'est pas très renforçant.
Ouais, je trouve que d'ailleurs, dans le témoignage, c'est assez... Elle dit pas mal ça, quand même, ce truc qu'en fait, pour elle, d'aller porter plainte avec sa mère, eh ben, c'était une façon d'agir, en fait. Et qu'à l'époque, je pense que cette question, elle se pose surtout quand les personnes sont jeunes, enfants ou adolescents, eh ben, c'est la seule réponse qu'on te propose, en fait. C'est-à-dire, même quand on voit dans les associations d'aide aux victimes ou des trucs comme ça, eh ben, c'est un peu la solution imposée, quoi. Et du coup, c'est...
Oui, tout à fait. Et oui, c'est la seule solution. Et il y a aussi vraiment, dans le témoignage, on entend bien aussi cette question de comment ça devient ton identité, en fait. T'es plus autre chose qu'une victime dans ta vie. Et que ça, c'est vraiment le traitement aussi social et du coup aussi ton entourage qui est fait. Et qu'elle, elle dit bien... comment ça ajoute énormément une dimension encore plus lourde au traumatisme. Et du coup, dans laquelle on devient enfermé. Et du coup, ouais, je crois qu'il y avait un texte un peu sur qui revenait un peu sur cette question-là.
Ouais, alors du coup, moi j'ai envie de vous lire un texte que j'ai trouvé dans un numéro de Bang Bang, qui est une revue écrite par des tapettes radicales. Du coup, c'est un texte, en fait, qui parle sur aller porter plainte, ne pas aller porter plainte, et les questionnements, en fait, que cette personne, elle se pose dans le fait d'aller au commissariat ou pas.
Moi, j'avais envie de rajouter, tout à l'heure, tu disais un peu que c'est, notamment pour les enfants, c'était la seule solution qui était proposée, d'aller porter plainte et d'avoir recours à la justice. Mais moi, j'ai l'impression que c'est globalement, en fait, que c'est tout le monde, et que même... on nous dit toujours « appelle la police », en fait, quand il t'arrive quelque chose. Et pas « défends-toi », mais « appelle la police ».
Ouais.
C'est ça, en fait. Mais du coup, ça s'en parle un peu dans le texte.
Alors, je vous lis. « Porter plainte. Quoi, moi, porter plainte chez les keufs ? Je ne sais pas trop haïr, mais il m'arrive d'exécrer la flicaille. Toujours là pour faire le sale boulot, pour faire chier le monde, contre les jeunes, surtout les arabes, les noirs et les pauvres. Ce sont des matraques racistes, des chiens de garde pour les riches. Ils harcèlent tout le temps, ils sont violents. Teubés jusqu'à la visière de la casquette. Ils sont toujours du mauvais côté, collés comme mouches à merde aux craignos, au plus fort, aux ordres, aux faf et autres crevures. Porter plainte, collaborer, la honte, la trahison. Merde de chez merde, comment faire? Et puis les trois salauds, c'est pitié, c'est des honnards comme moi, des exilés. Des réfugiés permanents, des punks, des pédés refoulés peut-être. Sans doute. Parce que cette fois-là, ils bandaient aussi fort que leurs coups de pied. Porter plainte contre des pédés anti-pédés. C'est tout bénef pour les terroristes de Bénitier. C'est drame. Oui. Mais ils ont été sans pitié. Ce sont des raclures de fond de poubelle aussi, des violeurs. Hier et peut-être encore bientôt. Demain, dans 10 jours, dans 1 mois. Ils savent faire, ils sauront recommencer. Violer d'autres petits gringalets comme moi. Par mépris et par haine des PD, avec crachat, coup de poing, de pied, de bite, éjaculation comprise. Avec l'âme ou sans l'âme, personne ne sait. Oui, mais ils sont étrangers. C'est dégueulasse de porter plainte contre des personnes d'ailleurs dans un pays raciste. Infâme. Si je porte plainte, s'ils se font pécho, qu'ils se retrouvent chez les keufs, ça va être leur fête. Des coups, des insultes, dans une langue inconnue ou méconnue. Et encore des coups et des insultes pour la teuf au pointeur, ou au PD quand ils se retrouveront au trou. Violés eux aussi, tabassés. Des coups et encore des coups. Je peux pas faire ça. C'est difficile. Oui. Mais ce sont des violeurs de PD. Je suis sain et sauf. Il ne faut pas qu'ils recommencent. Je dois le faire. Je dois aussi m'essuyer d'eux. Les faire partir de moi, de sur mes épaules, de dans ma gorge nouée, de mon ventre, de mes os, de ma figure cabossée, de mon corps et de ma chair gercée. Ne pas être condamné à être victime à vie. Acteur, agir. Avec les moyens du bord, avec mon humanité moyenne et mes idées de vouloir changer le monde. Juste, être juste. Mon cul est coincé entre une justice injuste et méprisante, 3 violeurs, et mon envie de voir disparaître les prisons. J'ai la moitié de mon cul sur le soleil de mes idées et l'autre fesse sur la pratique d'une réalité. Un garçon ou un homme violent doit comprendre un jour qu'il est responsable, lui-même, de ce qu'il fait. Et je ne connais pas, pour l'instant, de recette magique pour que la conscience s'améliore.
Là, du coup, c'est un texte qui explicite assez bien les problématiques qu'on rencontre, en fait, si on... En fait, de comment on peut avoir envie pour se réparer, pour se faire du bien et pour agir, en fait, de porter plainte, mais comment, en fait, ça rentre en contradiction avec d'autres convictions, en fait. Et j'ai l'impression aussi que ça montre aussi qu'il y a des enjeux super différents que quand c'est des violences intrafamiliales, dans le sens où, si on connaît ou pas ces agresseurs, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences, en fait. Déjà, il y a moins d'enjeux. Les enjeux, ils ne sont pas emmêlés de la même manière. Mais aussi, ça veut... j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi lié à la croyance en la justice, en fait. Comme un truc de... Ce qui apparaît un peu, c'est un truc de dire, si ça se trouve, ils vont recommencer. Il ne faudrait pas qu'ils recommencent. Mais ça veut dire croire que la justice, elle va faire quelque chose. Qu'ensuite, qu'elle va retrouver les gens, mettons. Et qu'elle va prendre en compte la plainte et qu'elle va considérer ça comme quelque chose de valable, ce qui n'est pas donné dans le cas de violences homophobes, et que ce qu'elle va mettre en place, ça va permettre que ça ne recommence pas. Et j'ai l'impression que déjà, ces 3 trucs, on n'y croit pas, et du coup, c'est aussi assez problématique de comment... comment à la fois ça peut être un moyen d'agir qui fait du bien, en fait, parce qu'on ne reste pas juste à rien faire, et comment, en même temps, ça pose la problématique de comment on y croit, en fait.
Ouais, je pensais vraiment ce truc que la justice pose comme omniprésente, comme solution, mais qu'en fait, dans le concret des choses et de ce qu'elle propose, c'est rarement la première vision qu'on peut en avoir, en fait. Et du coup, moi, ce que j'avais envie aussi de revenir dessus, un truc qui m'a fait un peu réfléchir, c'est aussi ce truc de qu'est-ce qu'on va chercher, en fait, dans la justice. C'est aussi une certaine reconnaissance. Et je me dis aussi que dans certains cas, c'est une reconnaissance qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs, de son entourage, par exemple. Et des fois, c'est aussi la seule solution, encore une fois, la seule qu'on trouve pour récupérer une reconnaissance, en fait.
Et je crois que c'est des idées qui vont être un peu développées aussi dans les prochains témoignages.
Bon, peut-être on peut écouter le suivant, du coup. Alors, il dure un peu plus d'un quart d'heure. Il est suivi d'un morceau de musique. Bonne écoute.
Je vais essayer d'être un peu la plus claire possible, mais je crois que ce que j'aurais envie de dire avant de commencer vraiment, c'est que ce dont je vais parler, c'est une histoire qui s'est passée dans ma famille. Ce qui s'est passé, c'est que y a eu de l'inceste psychologique, essentiellement, de la part de mon père sur ma sœur. Mêlé à tout ça, une atmosphère qui mélangeait aussi des relations de conflit internes à plusieurs personnes dans la famille. La famille, c'est la famille proche, hein, ses parents, enfants, quoi. Du coup, encore aujourd'hui, alors que ça fait plus de 15 ans, eh ben, c'est encore compliqué pour moi de savoir ce qui s'est passé réellement ou pas, en fait. Ça fait un peu comme une histoire puzzle, là, avec plein de bouts, et il y a plein de trous encore, quoi. Je sais pas trop. Eh ben, moi, j'ai l'impression que j'ai pu comprendre et surtout avoir une sorte de reconnaissance de ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire, ça s'est joué à plusieurs niveaux. Ça s'est joué au niveau de la reconnaissance par l'entourage proche, puis des médecins, etc., puisque de cette histoire a découlé une période hyper dure pour ma sœur, du coup qu'on a eu des impacts aussi sur nous. Au fur et à mesure que ça se passait, il y avait la découverte de ce qui s'était passé, quoi. C'est comme si on ouvrait... c'était des signaux qui montraient petit à petit en décortiquant que oui, il y avait eu des trucs qui s'étaient passés, comment, quand, etc. Et puis après, plus tard, de la reconnaissance au niveau de la justice, parce qu'il n'y a jamais eu de procès. Par contre, un peu moins de 10 ans ou 10 ans après le divorce de mes parents, pendant ce divorce-là, il a été dit que mon père avait mis en danger la vie psychologique et physique de sa famille. C'est la seule chose qui a été dit sur le sujet, quoi. Mais par contre, moi, je me souviens que quand ma mère, elle m'a dit ça, ça m'a fait un peu comme un courant d'air, quoi. Un truc de « Ah ouais, alors... Ah, la justice, elle reconnaît quelque chose, quoi. Elle reconnaît quelque chose, alors ça a vraiment eu lieu. Ah, je me suis pas fait des idées. Ah, toutes ces espèces de non-dits, d'incompréhension, de parcours médical à répétition et de trucs hyper durs. C'était pas juste... j'avais pas rêvé, quoi. » Moi, j'avais déjà fait cette démarche d'écrire à la juge en direct en lui disant « Voilà, je fais partie des éléments à gérer par mes parents. Donc, je voudrais que vous preniez acte que je vois plus mon père parce que, que si je le vois un jour, ce sera une vraie décision et que c'est pas sur un truc de thune que je le vois. Et du coup, que vous lui demandiez que la pension alimentaire soit versée via ma mère. » Donc, ça a fait un premier lien, en gros, à la justice qui ne passait pas par ma mère, qui était en autonomie. Du coup, il y a eu un peu ce truc de dire, ben en fait, j'ai la possibilité d'être autonome face à ses actions, et notamment autonome face à la connerie de mon père. Face à une personne qui utilise la justice, en tout cas l'appareil judiciaire, les lois et les avocats, pour arriver à ses fins. Moi, ce que je fais pour me protéger de ça, de ce type-là, j'ai décidé que j'avais la possibilité d'avoir les mêmes armes. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Qui dit père biologique dit droit parental à vie. Qui dit droit parental à vie dit s'il m'arrive quelque chose dans ma vie aujourd'hui, il a droit à la parole, en fait, sur qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, il n'en est juste pas question, en fait, pour moi. Du coup, en ce moment, en tout cas, je suis en train de rechercher notamment cette phrase-là, cette phrase que j'adore, de « Monsieur, vous avez mis en péril la vie psychologique et physique de votre famille. Parce qu'en fait, c'est, si je dis je l'adore, cette phrase, c'est juste parce que c'est peut-être cette phrase qui, à un moment donné, pourra me donner une preuve que ce type-là, il vaut rien pour moi, en fait, et qu'on doit me croire sur ce truc-là. Moi, j'avais pas les clés pour pouvoir, et je les aurais pas, pour pouvoir lancer un procès moi-même. Puis en plus, ça m'intéresse pas, je crois. Enfin, à un moment donné, je crois, ça m'a vachement titillé, ce truc-là, de dire « Ah ouais, mais en fait, ce gros connard, moi, j'ai vraiment besoin que... J'ai besoin que on remette les pendules à l'heure, en fait. » Voilà, je l'ai pas choisi qu'il n'y ait pas eu de procès, mais en vrai, je suis pas sûre que ça aurait amené quelque chose d'autre, si ce n'est encore de la douleur, encore découvrir qu'il est capable de faire de la grosse merde, et ça, on le sait déjà, en fait. Enfin, je veux dire... Après, tout à l'heure, on a évoqué la question de la différence entre justice et réparation. Comment c'était lié, mêlé ou pas mêlé. Hein. Et pour moi, ça ne l'est pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ça l'est d'une certaine manière, puisque j'ai dit que quand j'ai entendu cette superbe phrase, ben ça m'a fait du bien, c'est une sorte de reconnaissance. Par contre, moi j'ai l'impression que la réparation, entre guillemets, pour moi, de toute cette histoire-là, c'est plusieurs choses. Je crois, en grande partie, là, aujourd'hui, de savoir que j'ai de la force. J'ai de la force parce que j'ai compris que j'avais du pouvoir. L'autre chose, je crois, qui est aussi essentielle, c'est que j'ai arrêté de croire... J'ai arrêté de me mentir, en fait. J'ai arrêté de croire que ce type, dont je me souviens, là, le papa de quand j'étais petite... C'était ce même gars, et qu'en fait, il aurait été cool, pas cool, mais je sais pas comment dire, genre un chouette papa, après il aurait fait de la merde, et puis en fait, sa nature humaine, ce serait d'être sympa. Bon, j'ai arrêté de croire ça, mais ça j'ai mis vachement de temps, en fait, à le comprendre, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, tu te bats toujours contre toi-même sur ces trucs-là, je veux dire, tu peux pas y croire, puis en plus, sur des trucs de où il n'y a pas de preuves, puis sur des trucs où on te renvoie toute la journée et tout le temps dans toutes les sphères possibles que non, ça s'est pas passé, ou ah bon, tu veux bien me réexpliquer ton histoire, j'y comprends rien, c'est compliqué. Ben ouais, en fait, ça donne pas confiance, quoi, je veux dire. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin que mon père reconnaisse ce qui s'est passé? Évidemment. Évidemment. Et en fait, c'est ça qui fait que j'ai mis tellement de temps à arrêter de croire au Père Noël, quoi. Évidemment que j'ai, pendant hyper longtemps, cru qu'un jour, il me dirait « Oui, j'ai fait de la merde, je suis désolée. » Ou même pas « Je suis désolée, en fait. Oui, j'ai fait de la merde. Oui, j'ai fait de la merde, je reconnais que j'ai fait de la grosse merde et j'en suis conscient. » En fait, s'il avait dit ça, je crois, ça aurait... Ça aurait dégonflé le ballon assez vite, quoi. Et je pense que ça m'aurait pas fait que je l'aurais excusé, en fait. Je vais pas l'excuser d'un truc qui s'est passé, mais c'est pas ça, en fait. C'est, ok, la suite, c'est quoi? À un moment donné, moi, je veux bien... je crois que je suis vraiment capable d'entendre des tonnes de trucs. Mais en fait, il faut que les personnes, elles le reconnaissent. Parce qu'il est pas question que je les reconnaisse pour elles, en fait. Que, pour moi, c'est une prise de responsabilité, en fait. Et que ce type-là n'a jamais reconnu ce qui s'est passé. En fait, c'est drôle, la fois qui a un peu mis fin, la dernière fois où je l'ai vu, c'est pas pour rien que c'était la dernière fois où je l'ai vu, c'est un peu le dernier déclic qui a fait que j'ai arrêté de croire qu'un jour il me dirait qu'il reconnaît. Cette seule image de ce mec qui nie tout en bloc, c'était drôle, c'était vraiment, mais... tellement hallucinant, c'était tellement fou, quoi. Je suis là, ça en balance plein la gueule, et la seule réponse qu'il a à me dire, c'est pas... je sais pas, moi, tu sais, un truc de... Ben oui, je reconnais, quoi. Non, c'est... non. Non, c'est un passé. Non, non. Voilà tout. Ben, en fait, qu'est-ce que tu veux? Enfin, c'est bon, moi, j'avais ma réponse, en fait. Enfin, j'avais plus besoin de rien d'autre, quoi. Du coup, ça a un peu mis fin à ce besoin de réparation. Moi, ma réparation, c'est dans le fait qu'il a rien reconnu, mais moi, j'ai reconnu qu'il serait capable de plus rien, donc j'attends plus rien de lui. Et puis surtout, j'en ai plus peur. J'en ai plus peur, parce que j'ai les armes. Et les armes que j'ai, c'est d'être moi, c'est d'avoir ma force, et de savoir qu'il est complètement taré, quoi. Il est complètement taré. Et c'est tout. Tu veux vraiment que je te dise ? Ah oui, j'ai envie de le punir. Alors Ah, j'ai eu envie d'avoir un flingue hyper souvent. Plein de fois, j'ai rêvé du jour de son enterrement. En fait, j'ai voulu qu'il disparaisse. Et puis, en vrai, je crois, ça m'arrangerait un peu la vie, hein, qu'il disparaisse. C'est assez drôle, d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir... de plus rien en attendre, mais quand même, comme il est encore en vie, il y a quand même une attention à... Tiens, potentiellement, il vit encore, alors potentiellement, il peut encore faire de la merde. Je sais pas si j'appellerais ça de la punition, je crois que c'est un truc d'être... d'avoir envie que ça s'arrête, quoi. En fait, je suis fatiguée de ce truc-là. Et... ouais, ça me fait penser que... Quand j'ai appris qu'il venait d'avoir un cinquième enfant, donc il y a une demi-sœur là qui est née il y a un an, un truc comme ça. Ouais, ce jour-là, j'ai eu vachement de colère, quoi. J'ai eu vachement de colère et vachement de... J'étais hyper vénère. Puis je voulais faire justice, quoi. J'avais trop peur que ça arrive de nouveau et je me souviens sur mon vélo en rentrant une fois, je me disais ok, je vais trouver des trucs, je vais trouver des raisons, des preuves, tout ce qu'ils voudront, mais je vais le foutre en procès en fait. Je vais le foutre en procès pour que ça s'arrête, pour que ce bébé là il subisse rien. Et puis hyper vite, je me suis dit ah c'est drôle, t'es en train de réagir comme une personne qui croirait en la justice quoi. Un peu là, j'étais sur mon vélo comme sur un cheval, là, boum boum, avec mes deux flingues, prête à aller lancer, faire péter les tribunaux. Et puis tout d'un coup, j'ai réalisé ce que j'étais en train de penser. Je me disais, non mais n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Au nom de quoi, il y a un truc qui m'a vachement frappé dans ma réflexion, c'était de me dire, en fait, pourquoi tu lui laisserais pas cette possibilité d'avoir un père potentiel ? J'en sais rien, j'ai pas d'avis sur ça, si ça pourrait être un père potentiel. Bon, voilà. Il y a eu ça, il y a eu ce truc de dire tiens, t'as décidé de vivre, pourquoi là tu veux te remettre des, des trucs sur lesquels trébucher et puis trop coltiner le passé en le mettant au présent. Ça fait un bon gros déclic aussi. Et puis, dernier truc, c'est que je me suis dit en fait, je vais pas faire justice parce que je peux pas. Et puis, quelle justice ? Ça veut rien dire. Même s'il y avait un coin de ma tête qui me disait « Ouais, mais là, à des fois, eh ben, faut prendre ses responsabilités et faut agir. » Et puis, je me dis, ça revenait, ce truc de dire « Ouais, mais en fait, c'est pas tes responsabilités, en fait. » Enfin, je veux dire, c'est sa vie, là. C'est leur vie, quoi. C'est pas la tienne. T'as rien à foutre là-dedans. Je vais pas venir interférer dans sa vie, mais si on vient me chercher, j'y serai. S'il arriverait quelque chose, ben, moi, je suis derrière, en fait, quelque part. Il y a eu des milliards de trucs qui me sont passés par la tête. De fait, j'y ai pensé. De fait, quand je suis en colère, j'y pense. Mais en fait, je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas d'aller mettre de l'énergie là-dedans. Que aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vivre en fait, et que je crois qu'un truc essentiel pour moi, c'est que une de mes forces aujourd'hui, c'est de pas lui laisser mon énergie. Et je crois que ça, c'est le truc. Pour moi, c'est le principal truc, c'est qu'en fait, si je lui laissais ma vie ou ma force, il aurait gagné en fait. Et ça, il en est pas question. Il a perdu ce type-là. Il a perdu avec moi, en tout cas. Ça, c'est clair.
Every 6 minutes, someone says no. Every 6 minutes,
she gets ignored. It's not what you're wearing, it's not where you've been. The fact that they think so tells you something about sin. Every 6 minutes, a woman cries. Because every 6 minutes, her pleas are denied. No one's asking for it. It's the woman's secret desire. Had a bullet for every 6 minutes, I'd know just where to put it every 6 minutes. One in your heart and one in your brain, and I make a start just my
Vous
Vous êtes toujours sur Dégenré, une émission féministe les deuxième et quatrième mercredis du mois sur Radio Kaléidoscope 97 FM, une émission qui est également rediffusée lundi suivant à 19h. Et ce soir, on parle du lien qu'on peut faire justement ou pas entre nos féminismes et le rapport à la justice.
Et donc le morceau de musique que vous venez d'entendre, c'est un morceau de musique qui est extrait du film Pray for Rock'n'Roll, qui s'appelle Every Six Minutes. Et du coup, pour réagir à l'entretien, le témoignage qu'on vient d'entendre, moi, ce que je trouve hyper fort, en fait, dans ce témoignage, c'est tout ce rapport autour de la reconnaissance et de la réparation. Et de comment, en fait, quand elle dit que pour elle, la reconnaissance, c'est une prise de responsabilité, je trouve que c'est vraiment hyper vrai, en fait, que c'est un truc de pas forcément, en fait, vouloir pardonner ou vouloir, ou je sais pas, ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment un truc de que la personne prenne la part de sa responsabilité, en fait. Et ça, c'est le premier truc que je trouve hyper important. Et le deuxième truc, par rapport à ce truc de réparation, qu'en fait l'issue, c'est pas forcément de punir ou de pardonner, en fait. Parce que déjà, pardonner, c'est ce qu'on attend des femmes. C'est ce qu'on attend d'elles de porter tous ces trucs-là. Et que la solution aussi, ça peut être de se détacher. Et que je trouve que dans ce témoignage, c'est ça qui est hyper fort, c'est qu'en fait, elle n'a pas eu besoin d'une reconnaissance, mais qu'en fait, elle a pu arriver à se détacher et à plus porter sans qu'il y ait eu de reconnaissance, en fait.
En tout cas, moi, je trouve vraiment trouver ses propres stratégies, en fait. Sortir un peu du schéma classique de quel devrait être son rôle, qu'est-ce qu'elle devrait attendre, qu'est-ce qu'elle devrait faire. Et à un moment, développer ses propres stratégies de renforcement. Ouais.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'un peu avec le système de justice, j'ai l'impression qu'il y a la notion de punition, de vengeance... de réparation et de reconnaissance, ils fonctionnent ensemble, en fait, et ils sont inséparables, un peu comme si la seule manière d'avoir de la reconnaissance, c'est quand l'autre est puni, que les sentiments de vengeance de la personne qui a subi des violences, ils sont contenus dans la punition, et que la notion de réparation, eh ben, en fait, il y a réparation quand il y a punition. Et qu'en fait, on peut pas... en fait, j'ai l'impression que la justice, elle ne réfléchit pas ces notions-là de manière individuelle et séparée, en fait. Et moi, je trouve ça hyper important que ces quatre notions, on puisse les distinguer les unes des autres et les approfondir. Et qu'en fait, à un moment, de se rendre compte que c'est possible d'en avoir une sans avoir les autres. Et qu'en fait, il peut y avoir punition sans que la personne se sente reconnue aussi, en fait.
Ouais, et ce que je trouve aussi important dans ce que tu dis, c'est... Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'était que dans la justice, en fait, la réparation, c'est la justice qui la donne, et c'est pas quelque chose d'actif, en fait, de la part de la personne qui est victime, entre guillemets, hein, parce que, bon, toujours ce mot que j'aime pas trop, mais du coup, là, la réparation, en fait, on peut se la faire soi-même, en fait, et trouver ses propres stratégies pour se réparer, en fait, et pas attendre d'être réparé. Enfin, encore dans ce schéma passif.
Bah, je crois que le troisième témoignage va aussi recouper un peu recouper ces questions-là. Du coup, je vous propose de l'entendre maintenant.
Mais alors, du coup, moi, je suis pas passée par la justice. Il y a eu un truc où ça s'est posé la question au moment où c'est arrivé. C'est des trucs qui se sont passés avec mon grand-père, en fait. Des trucs d'attouchement, et où ça arrivait, j'avais genre 10-11 ans. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents, et je pense que sur le moment, ma mère, elle voulait aller porter plainte, mais elle m'a laissé le choix, quoi. C'est elle qui m'a demandé si je voulais ou pas, j'ai refusé. Enfin, je voulais pas foutre la merde dans la famille, etc. La question s'est posée plus tard. Ou je sais pas, j'avais 20 ans, je pense. Et En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon grand-père, j'ai continué à le voir après, en fait. Après ce qui s'était arrivé, il y a eu une pause de 6 mois, genre. On les a pas vus. Au début, moi, j'étais plus dans un truc, ok, c'est arrivé, c'est bon, c'est fini, non, je m'en fous, ça m'atteint pas et tout ça. Et en fait, plus ce qui m'a fait chier sur, à la longue, c'est plus le truc de tabou, en fait. Dans la famille, personne n'en parlait et c'était plus quand j'étais, genre, j'habitais plus à la maison. Du coup, quand je les revoyais, c'était vraiment une autre famille, etc. Et que ça me faisait un truc genre, mais en fait, tout le monde fait comme si rien n'était, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Alors que pendant hyper longtemps, moi, j'avais fait pareil et c'était pas un problème. Et là, je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est le fait d'en avoir parlé à d'autres gens et que les gens trouvaient ça hyper chelou, que je continue à le voir comme si de rien n'était. Et du coup, ça fait un peu un chemin dans ma tête, de me dire, mais c'est pas possible, tout ça, nanana. Du coup, ça faisait un truc un peu genre de tension pour moi, surtout, je pense, où genre, j'avais l'impression vraiment de porter le truc, et ça me faisait un truc, mais en fait, c'est pas à moi de porter ça, ça me gave. Et du coup, ça s'est d'abord posé dans un truc de « je veux plus le revoir, en fait, je veux plus y aller ». Et du coup, j'ai posé ça à mes parents, un truc « c'est bon, je veux plus le revoir ». Et du coup, en fait, suite à ça, on a eu des discussions. Finalement, ça s'est posé un truc où, en fait, c'est plus vraiment possible de plus le revoir, parce que si je revois plus mon grand-père, je revois plus ma grand-mère. En fait, au départ, je suis allée voir une psy et tout ça pour parler de ça et tout ça, machin, pour essayer de trouver une issue à ça, et... autre que ne plus les revoir, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, ben, j'ai eu envie d'un truc de confrontation, ou je sais pas, un truc. En fait, ce que je veux qu'il se passe, c'est que ce qui s'est passé, ça soit reconnu dans la famille. Je pense que c'est ça qui me manquait. J'avais l'impression de tout porter. Genre, c'est arrivé à moi. Et puis, voilà, quoi. Lui, j'ai l'impression qu'il porte rien de ça, en fait. Soit parce qu'il s'en fout, soit parce qu'il capte pas du tout c'est quoi les enjeux. Et du coup, j'avais besoin que ça soit porté par plus de gens, quoi. Et du coup, j'en ai parlé. Bon, mes parents étaient au courant. J'en avais parlé à ma sœur avant. Enfin, on a fait une réunion de famille avec mon frère, ma sœur et mes parents, on en a parlé. Ensuite, j'en ai parlé avec mon oncle et ma tante. Et ensuite, j'en ai discuté avec ma grand-mère. Puis ensuite, il y a eu une confrontation avec mon grand-père. Donc, c'est vraiment par étapes, tout ça, assez réfléchi et tout. Mais c'est vrai que j'en discutais avec mes parents, avec des propositions, mais eux, ils étaient un peu démunis face à ça, quoi. Parce que je pense qu'ils disaient, voilà, c'est des outils qu'ils connaissaient pas du tout. Et du coup, ils disaient oui parce qu'ils trouvaient ça bien, mais ils n'avaient pas, enfin, à part aller voir une psy, ils n'avaient pas vraiment de proposition, en fait. Ils s'imaginaient pas ça, en fait. Par exemple, ils s'imaginaient, aller porter plainte en justice, tout ça. Mais moi, c'est un truc que j'avais posé direct que je voulais pas. J'évoluais déjà dans les milieux anarchistes, libertaires et tout ça, et que pour moi ça se posait pas parce que je voulais pas que mon grand-père il soit dans un procès, je voulais pas qu'il aille en prison, je voulais pas, en fait, c'est juste plus, encore plus détruire la famille, et c'est pas du tout ce que je voulais. Moi, j'avais besoin d'un truc de reconnaissance de la famille, et que la justice, c'était un truc auquel je croyais pas, et un truc que... Juste, en fait, c'est un système que je combats, et du coup, je voulais pas passer par ça aussi. Sa reconnaissance à elle, j'en avais pas besoin, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de réfléchir à d'autres trucs, et dans un truc de où, en fait, il s'est passé quelque chose, j'ai besoin que vous le reconnaissiez. Moi, je pense que si j'ai réussi à faire tout ça aussi, c'est parce que j'avais du soutien, le soutien de mes parents, le soutien de mon frère et de ma sœur. Et du coup, je pense que ça, c'est assez rare, j'ai l'impression, dans ce genre de situation. Il y en a qui sont pour enfoncer le tabou et pour pas en parler, ou pour faire un déni de ce qui s'est passé et tout ça. Et que là, c'était pas le cas, et que je pense que ça fait que il y avait cette possibilité-là de pouvoir faire ça. Sinon, en fait, je sais pas ce que j'aurais décidé de faire, mais... Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas eu à me battre en plus contre la famille. Je pense qu'au début, je posais pas le mot d'inceste, parce que pour moi, en effet, un inceste, c'était un viol. Et dans le mot viol, j'entendais un truc violent. Et du coup, vu qu'il m'avait pas fait ça, et ben, c'était pas un inceste. Ou je sais pas, et en fait, ça m'a fait un truc aussi, j'ai posé ce mot-là, c'est un inceste, mais c'est aussi un peu, c'était aussi un peu face à mon grand-père pour dire, oh, enfin, regarde ce que t'as fait, en fait, c'est grave. Ou moi, en fait, je n'y tiens pas à fond à ce mot-là, en fait. Ou je sais pas, c'est pas un truc que je veux que ça soit posé, ou je sais pas quoi, ou quand j'en parle, je pose ce mot-là. Peu importe, enfin, pour moi, à la limite, peu importe le mot qu'on met dessus, quoi. Ce qui est important, c'est que ça soit reconnu en tant que truc pas normal, quoi.
Donc, du coup, il y a deux moments dans ta vie où le truc de porter plainte, ça t'allait pas. Et je me dis, vu dans tout ce rapport, ces rapports à la justice, des fois, il y a aussi des sentiments, par exemple, de vengeance, au moins que la personne, elle soit punie. Et du coup, est-ce que les deux, ces deux étapes de ta vie, tu dis que ça, c'était pas trop présent pour toi, là?
Ben moi, pour moi, la question, elle s'est pas posée dans le sens où en fait, si on allait en justice, c'était pas juste lui qui allait souffrir, et en tout cas c'est pas lui qui allait souffrir le plus, mais c'était ma grand-mère, mon père. J'avais pas du tout envie de, enfin j'avais pas du tout envie d'imposer ça à tout le monde, et j'en avais pas besoin aussi. Enfin c'est, je pense au début là quand j'étais gamine, c'était pas possible parce que j'étais juste dans un truc. En fait je vais oublier ce qui s'est passé. Arrêtons d'en parler, ça s'est arrêté, tant mieux, mais on arrête d'en parler en fait, c'est bon quoi. Du coup, je pense que ma mère, si j'avais dit oui, eh ben, on l'aurait fait. Je me souviens que la première fois que j'en ai reparlé à mes parents quand j'avais 20 ans, là, eh ben, ma mère, elle m'a demandé, mais est-ce que tu penses que j'aurais dû le faire quand même? Et je lui ai dit, oui, peut-être. Oui, en effet. Et là, maintenant, en fait, je me dis, en fait, non, vaut mieux pas. L'aurait mieux pas valu, en fait, je pense, parce que ça aurait fait du mal de ma famille, etc. Mais surtout, je pense que moi, ça m'aurait pas aidé, en fait. Dans un truc où là, ce que j'ai fait, c'est un truc où c'est moi qui ai fait des trucs, où c'est moi qui ai pris en main ce truc-là, et qui ai géré à ma façon, et où je savais c'était quoi mes besoins là-dedans, et c'était quoi que je voulais entendre, c'était quoi que... etc. Même si ça a fait un truc où pendant hyper longtemps ça a été un tabou, que j'ai dû porter ça et que c'était chiant et tout ça, ben ça fait un truc où en fait... c'est un truc que ça venait de moi, en fait, et que c'était pas un truc que j'avais pas de prise dessus comme un truc de procès ou de justice, etc. Et que en fait j'allais pas du tout gérer de qu'est-ce qui allait se passer comme condamnation, etc. Et que j'aurais eu aucune prise dessus. Après, sur la question est-ce que j'ai eu envie de vengeance qui soit punie, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas eu envie de trucs physiques, par exemple, de lui casser les genoux, je sais pas quoi. J'ai pas eu envie de ça. Mais je pense, par exemple, là, ça peut-être s'apparenter à un truc de vengeance. J'en sais rien. Mais le fait, en fait, de lui avoir balancé tout ça à la gueule, enfin, d'avoir des mots hyper durs, de voir, en fait, que lui, il en chiait, en fait, de faire autant de mal à sa famille... Enfin, et que ce soit lui, en fait, qui finalement porte le truc. Enfin, maintenant, c'est lui qui le porte. Les autres personnes à différents degrés, mais disons que mon principal truc, c'était aussi d'arrêter de porter ça toute seule et que lui, en fait, il porte la véritable part de sa responsabilité, quoi. Et que ça, je pense que ça a marché. Oui, lui, il n'était pas dans un truc de déni, de non, c'est pas grave, de nanana, etc. Ben, je pense peut-être, en effet, de le voir souffrir là-dedans, peut-être ça m'a fait un truc de tiens... Mais je pense que c'était pas à fond présent, enfin c'est pas ça qui m'a motivée ou je sais pas quoi.
T'as jamais eu besoin que ça se sache plus publiquement qu'au sein de la famille?
Non, parce que ce qui se jouait, de ce qui me saoulait, c'était au sein de la famille. Du coup, une fois tout le monde était au courant de ce que j'en ressentais et de comment j'étais avec ça, ben ça allait mieux. Et je pense que c'était aussi un truc de vraiment de reprendre du pouvoir là-dessus, quoi, et un truc de me détacher aussi, en fait. Où, en fait, vu que cette histoire, elle traînait et que j'en faisais trop rien, en fait, si ce n'est faire comme si elle n'existait pas, et ben là, en fait, ça fait un truc où, genre, je pouvais passer à autre chose, en fait, que j'avais besoin de le régler pour avancer, pour dire « ça, c'est derrière moi ». Et ça m'attend plus, et en fait, il peut plus me faire du mal, en fait, parce que je m'en fous. je le vois encore en fait, mais il est rien pour moi. Mais du coup, ça me fait un truc où ben c'est plus mon, enfin ça me concerne plus en fait. Bon, même si c'est un peu faux parce que bon, du coup, je continue à le voir et tout ça, et que je pense qu'à des moments, ça me fait un peu des, quand même des petits relents de colère ou des trucs comme ça. Je sais pas en fait si on, vraiment à un moment donné, on peut se dire que c'est complètement derrière nous, j'en sais rien, mais.
En fait, c'est ce truc-là, c'est les choix que t'as fait à un moment, de mode de gestion, tout ça. T'as trouvé de la force, du coup, là-dedans, et que c'est un truc important dans ta vie, en fait, de dire, ben ouais, j'ai été capable.
Oui, je pense que ça a été un truc. Je pense à un pareil, parce que j'ai eu de la chance, que j'ai eu des parents qui m'ont soutenue, etc. Mais je pense qu'en effet, c'est un truc que j'ai quand même géré vraiment pas mal toute seule, ou... pour ce qui est de réfléchir du cadre, etc. Du coup, j'ai quand même mis ça en place toute seule, enfin, par rapport aux besoins que je ressentais et tout ça. Et que je pense que ça, c'est un truc de fierté que j'ai par rapport à ça, quoi. D'avoir réussi à faire ça, en fait, et de... Enfin, sur le moment, je pense, en fait, je le faisais parce que j'en ressentais le besoin et que c'était logique et que je pense qu'il y avait plein d'émotionnels et tout ça, mais qu'en même temps, j'avais un truc de distance à arriver à savoir ce que j'avais besoin, en fait. Ça me fait un truc d'avoir vraiment trouvé de la force là-dedans, en fait, de dire, ben, en fait, j'étais capable de faire ça, en fait. Et ça veut dire que, en fait, je peux être forte et que je peux affronter des trucs, en fait, qui sont pas faciles. J'ai l'impression que dans la justice, là, pour ce qui est des victimes de violences sexuelles, surtout pour les enfants, quoi, je pense qu'il y a un truc de, oh mon Dieu, c'est horrible, t'es censé jamais t'en remettre. Et je sais pas si je l'ai réfléchi comme ça, sur le moment, en fait. Mais là, maintenant, je me dis, en fait, que juste, ça aurait fait peut-être juste que ça aurait pu m'enfoncer dans ce truc de « Oh mon Dieu, c'est horrible, comment tu fais ?» et que je pense que ça aurait plus fait un truc que ça m'aurait affaibli plutôt que ça m'aurait donné de la force pour régler ce truc-là, quoi. Et plus le fait que j'avais pas de prise sur ce qui se passait et tout ça, machin, du coup... Oui, que t'es une victime, du coup, tu dois aller mal, tu dois pleurer, tu dois pas savoir... Enfin, on doit s'occuper de toi de telle et telle façon, etc. Enfin, que en fait d'enfermer les gens dans ce truc-là, ça aide pas du tout en fait à reprendre du pouvoir sur sa vie, quoi. Parce que, enfin, pour moi, c'est vraiment le grand jeu du truc, quoi. C'est de reprendre du pouvoir sur ma vie, quoi. Et d'arriver à poser ça, c'est un truc qui a fait que ça a été possible.
Déjà petit, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite. L'engraineuse, mon catalogue me pousse vers l'exit, j'en deviens trop haineuse. Je me braque, ça m'exaspère, on dit que je suis teigneuse. Je me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là on me trouve capricieuse. Des mots ininterrompus à m'en donner des otites. Maudite, quand je m'attaque aux théories, je les discrédite. J'irrite le commun des mortels, je détériore telle une rebelle. J'avoue, je fous le bordel. Je tombe les cloisons, je sors de mes gonds. Prends ton droit, sers-en toi. C'est facile de crier non, inutile pour ça d'avoir des ronds. Si je vois que je sature trop, je lance mon juron. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Un peu moins petit de faire 15-16, déferlement de bourrage de crâne, j'en deviens obèse. J'exagère mais je rejette toute forme de charentaise. Morale ou mentale, t'as beau tout faire pour qu'elle me plaise. Impossible, y'a pas moyen assurément, t'as dû te bourrer de cible. Apparemment, toi et moi on ne lit pas la même Bible. C'est inadmissible, pour ne pas dire indigestible, que ce soit moi la nuisible. Arrive l'époque innocente, soi-disant jeune, adolescente, où t'es inconsciente. Ou trop souvent j'entends dire, je suis une délinquante, je suis une maniérée ou que j'ai des manières inconvenantes. Non, nine, nada à la niette. Aïe la nga, nine, à la niette. Non, nine, no, nada à la niette. Aïe la nga, nine, rarement dans les rangs. J'ai des transpires à contre-courant. Je pousse des soupirs, mais c'est déconcertant. Je vois dans mon calme apparent de la nonchalance, dans ma distance, de l'ignorance, mon indépendance. Tu
tu la transformes en arrogance. Ma résistance devient extravagance. Ma maladresse n'est qu'à politesse. Et tu vois dans ma gentillesse une marque de faiblesse. Conflit en conflit, faut pas craquer. Même si anéanti, tu sembles ralenti. Même en sous-régime, je persévère. J'opère un changement d'atmosphère, c'est nécessaire. Réfractaire, je balance mes verres. Je me défends, trop arrogant. T'es trop insultant en pensant que je te laisserai faire ma vie un enfer. Prévoyant, sans souci, ferme-moi ta prisonnière. Non, nai, no, nada à la niette. Aïranga, naïne, à la niette. Non, nai, no, nada à la niette. Aïranga, naïne, à la niette. Non, nai, no, nada à la niette. Aïranga, naïne, à la niette. Non, nai, no, nada à la niette. Aïranga, naïne, à la niette.
Vous venez d'entendre un morceau de la rappeuse Bams, non. Alors, par rapport à l'entretien là, qu'on vient un peu d'entendre, ce qui nous semblait aussi important, c'était de voir comment, comment des personnes qui ont vécu des violences et tout, trouvent différentes stratégies en fait, de renforcement par elles-mêmes, avec cette idée quand même... Qu'on peut pas généraliser des situations, mais que peut-être aussi quand il y a une vraie reconnaissance de la part de l'entourage, de ce qui se passe, tout ça, ça peut aider la personne à trouver, elle, ses propres pistes de réparation, et que ça nous semble quelque chose d'assez fort.
Oui, en tout cas, ça évite que la personne qui a subi des violences, elle doute de ce qui lui est arrivé, etc., et que du coup, ça lui permet de se sentir plus forte plutôt que... d'être dans le doute et du coup de trouver des solutions. Et des solutions qui peuvent mieux lui convenir parce qu'elle choisit elle-même ce dont elle a besoin plutôt que la justice qui va décider complètement à sa place de faire ce qu'il faut faire pour la société. Et du coup, un peu en lien avec ce truc encore de justice, c'est que, comme on nous oriente toujours d'aller vers la justice, et en même temps, parallèlement, on nous oriente pas, on nous apprend pas à nous défendre, en fait, des violences qui peuvent nous arriver. Et on nous apprend pas d'autodéfense, en fait. On nous apprend d'attendre qu'il nous arrive quelque chose pour après aller porter plainte. Ou alors, en tout cas, de ne pas prendre de risques. Et c'est vachement, je trouve, un des grands dangers aussi avec cette notion de justice, c'est que la justice, avec la police alliée aux médias, ça fabrique tout un système de montrer des grands méchants loups et des grands dangers. Et on nous apprend à avoir peur des inconnus, à pas se balader toute seule la nuit, de pas faire de l'autostop, de pas faire plein de choses. Mais on nous apprend
pas à culpabiliser dès qu'on le fait, en disant que c'est nous qui prenons des risques, qui nous exposons, tout ça.
Voilà, de s'il nous arrive quelque chose, croire que c'est de notre faute. Mais en tout cas, jamais avoir peur de se marier. Jamais avoir peur de se marier, alors que le risque de violence conjugale en se mariant, il est énorme, en fait. Et qu'à un moment, la justice, elle fabrique aussi des stéréotypes. Et en plus, avec ces stéréotypes-là, et un peu la peur et plein de choses qui vont avec, ça permet de passer des nouvelles lois sécuritaires, qui sont d'abord orientés pour punir les délinquants sexuels et contrôler les délinquants sexuels, et qui après s'élargissent à toute la société, et qui sont aussi des excuses pour fabriquer une société de contrôle, en fait. Et ça, c'est
ce qui n'empêche pas que les violences elles perdurent dans toutes ces sphères là de proximité des personnes, parce que là par contre il y a pas vraiment de choses importantes mises en place qui remettrait en question les fondements des systèmes d'oppression, en fait.
Voilà, et surtout, on nous apprend pas, on nous dit pas va te balader dans la rue, mais c'est répondre, c'est riposter, apprends à poser tes limites, apprends à te battre, enfin, tous ces trucs-là, en fait. Et à un moment, c'est là aussi où y a une problématique, c'est que on nous dit de ne pas faire certaines choses plutôt que de nous apprendre à les faire étant blindé, en fait. Voilà, c'est ça.
Et c'est un peu... Oui, et ça, c'est un petit peu l'objet de démarches d'autodéfense, et notamment d'autodéfense féministe, comme ce que développe une association sur Grenoble.
Le contact, c'est riposte@riseup.net. Du coup, riposte, ça s'écrit comme une riposte, quoi. @riseup, riseup.net. Et en fait, c'est une asso, enfin, c'est le contact d'une asso qui organise des stages d'autodéfense.
Il y en a programmé au printemps, ouais, sur Grenoble.
En tout cas, c'est des stages d'autodéfense pour les femmes et les gouines. Et dans l'objectif de se renforcer pour être capable de connaître ses limites, de les poser, de savoir reprendre du contrôle sur des situations qui nous échappent, en fait, et ne pas avoir peur, en fait, de reprendre ce contrôle-là, de pas avoir peur des représailles et tout, d'apprendre à maîtriser les situations et pas se laisser emporter dedans. Et du coup, c'est des stages qui sont vraiment hyper intéressants, qui se passent sur deux journées, souvent deux dimanches.
Voilà, avec des prix très accessibles. Donc, on vous invite à aller regarder sur Internet Autodéfense féministe Grenoble avec Riposte. Et pour terminer, ouais, on avait aussi envie de dire que dans cette émission, on n'a pas beaucoup évoqué des modes de gestion un peu collective. Suite à des agressions, et alors qu'on a un certain nombre d'exemples qui sont assez intéressants de comment, alors pareil, il ne s'agit pas de penser à la place de la personne qui a vécu l'agression, mais bien d'être à son écoute, de l'accompagner dans exprimer des besoins, etc. Et ensuite de s'organiser collectivement pour porter ça et pas faire appel forcément à des experts là, de la justice, voilà, avec toute la critique qu'on a du système judiciaire. Donc voilà, c'est une piste qu'on n'a pas pu explorer aujourd'hui, mais comme il y a plein d'autres réflexions aussi qu'on n'a pas pu développer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces pistes-là aussi, nous, on dit que c'est important, mais qu'il faut faire attention à ne pas reproduire non plus d'autres systèmes qui peuvent être des systèmes d'oppression, par exemple, pas reproduire un contrôle social sur les personnes qui deviendraient stigmatisées comme agresseuses. Voilà, qu'on pense qu'il y a toute une vigilance à avoir sur comment c'est géré.
De pas fabriquer des spécialistes et des instances de gestion, par exemple, aussi.
Voilà, et du coup, en fait, il y a vraiment plein de choses qu'on a peu abordées et plein de choses intéressantes dont on a discuté. Il y avait aussi un peu la notion de vengeance qu'on n'a pas trop discuté, qui est aussi intéressante. Et aussi par rapport à cette notion de victime, il y avait le terme de survivante qui aurait été aussi intéressant de discuter. Mais du coup, bon, on n'a pas le temps, il y aura encore plein de choses à dire.
Une émission aussi,
voilà, ouais. Entière. Peut-être maintenant, on peut vous donner une petite bibliographie de l'émission.
Ouais, oui, alors il y a pas mal de textes sur lesquels on s'est appuyé.
Oui, on va la mettre en lien de toute manière sur Internet, sur les sites où vous pourrez télécharger les émissions de Dégenrés comme radio.indymedia.org ou radio rageuse au pluriel.net. Radio-rageuse.net, donc, et ça, c'est des endroits où on peut trouver nos émissions et sur lesquels on essaye de mettre les bibliographies. Et alors là, on a utilisé un peu Pau de Dorothy Allison, le numéro 2 du fanzine Bang Bang, et des brochures qui sont trouvables pour la plupart sur infokiosque.net, un site qui rassemble plein de textes politiques. Et dans ces brochures, il y a Soutenir une survivante d'agression sexuelle, Lavomatique, lave ton linge en public. Un autre recueil de textes qui s'appelle « Je ne suis pas un égout séminal ». Un autre recueil de textes sur le viol qui s'appelle « Combien de fois 4 ans ». Et une histoire, juste une histoire de fille qui parle aussi d'une gestion collective de violence, de viol conjugal. Voilà.
Du coup, voilà, on arrive à la fin de l'émission. Le morceau que vous allez entendre s'appelle « I Get Out » de Laurie Neal.
Au revoir.
Au revoir.
I get out of all your boxes. I'll get out. You can't hold me in these chains. I'll get out. Father, free me from this bondage. Knowing my condition is the reason I must change. Your stinking resolution is no type of solution. Preventing me from freedom, maintaining your pollution. I want
won't support your lie no more. I won't even try no more. If I have to die, oh Lord, that's how I choose to live. I won't be compromised no more. I can't be victimized no more. I just don't sympathize no more. 'Cause now I understand. You just wanna use me. You say love then abuse me. You never thought you'd lose me. But how quickly we forget that nothing is for certain. You thought I'd stay here hurting. Your guilt trip's just not working, repressing me to death. 'Cause now I'm choosing life, yo. I'll take the sacrifice, yo. If everything must go, then go. That's how I choose to live.
Okay, we're getting there. At least I had a chunk. Okay, it's how I choose to live.
No more compromises. I see past your disguises, blinding through mind control, stealing my eternal soul, appealing through material to keep me as your slave. But I'll get out. Oh, I'll get out of all your boxes. I'll get out. Oh, you can't hold me in these chains. I'll get out. Oh, I want out of social bondage. Knowing my condition, oh, is the reason I must change. See, what you see is what you get. Oh, and you ain't seen nothing yet. Oh, I don't care if you're upset. I could care less if you're upset. Don't change the truth. And your hurt feelings no excuse to keep me in this box. Psychological locks, repressing true expression, cementing this repression, promoting mass deception so that no one can be healed. I don't respect your system. I won't protect your system. When you talk, I don't listen. Only my father's will be done. And just get out. Oh, just get out of all this bondage. Just get out. Oh, you can't hold me in these chains. Just get out. Oh, these traditions killing freedom. Knowing my condition is the reason I must change. I just accepted what you said, keeping me among the dead. The only way to know is to walk, then learn, then grow. But faith is not your speed, or you'd have everyone believe that you're the sole authority. Just follow the majority, afraid to face reality. The system is a joke, or you'd be smart to save your soul. Oh, and escape this mind control. You spend your life in sacrifice to a system for the dead. Oh, are you sure? Where's the passion in this living? Are you sure it's God you're serving? Obligated to a system, getting less than you're deserving. Who made up these schools, I say? Who made up these rules, I say? Animal conditioning, or just to keep us as a slave, or just get out of this social.